Je suis heureux de vous retrouver ce matin, de vous retrouver pour annoncer la parole, réfléchir aussi à notre vie pour qu'elle soit en conformité avec ce que le Seigneur attend de nous. Seigneur, que tu fasses silence maintenant dans notre cœur, que tu nous permettes d'entendre ce que tu veux nous dire et que tu nous conduises par ton Esprit Saint. Amen. Ce matin, nous voulons continuer de réfléchir au thème que nous avons abordé dimanche dernier, à savoir comment mettre des relations justes, comment avoir des relations justes, comment mettre des limites nécessaires, comment faire en sorte que notre non soit un non, que notre oui soit réellement un oui et non pas un oui forcé quand nous disons oui. Et nous allons en particulier aborder les questions familiales ce matin. Nous aurons un temps de questions, c'est un culte institut biblique, ça veut dire que nous aurons la possibilité de répondre à quelques questions dans la fin de ce culte. Si vous souhaitez poser des questions, posez-les au cours de cet enseignement via le chat qui est à votre disposition. La relation des parents avec leurs enfants adultes peut parfois être compliquée, surtout quand ni l'un ni l'autre n'ont appris à poser des limites. Ça peut être compliqué d'être dans une relation d'adulte à adulte. J'observe, et vous l'avez observé sans doute aussi, que parfois, malgré l'âge déjà avancé des parents et des enfants, on reste dans des relations infantilisantes. Les chrétiens se trouvent parfois en difficulté parce que le commandement dans Exode 20, verset 12, affirme « Honore ton père et ta mère » afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et ce commandement, on le retrouve dans le Deutéronome, qui ajoute encore une clause supplémentaire, qui ajoute que celui qui observera ce commandement sera heureux. L'apôtre Paul cite aussi ce commandement dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, quand il demande aux enfants d'obéir à leurs parents, parce que, dit-il, c'est là ce qui est juste aux yeux de Dieu. Donc, si Paul cite ce commandement qui est déjà donné par Moïse dans l'Ancien Testament, c'est que ce commandement reste valable, même dans le Nouveau Testament, même pour nous aujourd'hui. Dans une dispute théologique que Jésus a eue avec des spécialistes de la loi, ces spécialistes reprochaient aux disciples de Jésus de ne pas observer la tradition des ancêtres. Et Jésus leur rétorque en disant « Mais le problème n'est pas là ». Le problème est ailleurs et il est bien plus grave. C'est que vous-même, docteur de la loi, vous n'observez pas la loi de Dieu qui demande d'honorer son père et sa mère. Parce que vous prenez prétexte d'offrir des biens à Dieu pour ne pas avoir à soutenir financièrement vos parents qui sont en difficulté. Et ce faisant, eh bien, vous contournez l'esprit de la loi. Vous agissez d'une manière hypocrite sous prétexte de soutenir l'œuvre de Dieu. Vous délaissez vos parents qui sont sans ressources. Et Jésus, parlant à ces spécialistes de la loi, leur cite le commandement de Moïse. Et il rajoute un commentaire encore, qui se trouve déjà dans le livre de l'Exode, qui dit que celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort. Et si l'on va vérifier dans le livre de l'Exode, deux versets avant celui-là, nous trouvons un autre commentaire du commandement d'honorer son père et sa mère qui dit « Celui qui frappe son père ou sa mère sera puni de mort. » Alors bien sûr, cette législation civile qui était valable du temps d'Israël n'est plus valable de nos jours. Nos législations civiles ne prévoient pas une mise à mort. Mais l'enseignement fondamental de cette loi demeure vrai. Nous devons le respect à nos parents. Et Jésus réaffirme avec force ce respect qui est dû à nos parents face à des religieux qui tentent de contourner la loi. Mais ceci étant dit, que dit exactement ce commandement? Comment aujourd'hui honorer ses parents? J'observe qu'il y a parfois des relations toxiques dans les familles. Quand une mère de 90 ans commence à poser des interdits à son fils de 70 ans, qu'elle lui fait des reproches sur sa manière de s'habiller ou de se comporter ou de manger, on n'est pas dans une relation qui est saine et normale. On pourrait se demander dans ces cas-là, mais pourquoi le fils laisse-t-il faire? Pourquoi ne dit-il rien? Et il est probable que cela remonte très loin, finalement, jusqu'à l'enfance de ce fils. Peut-être que lorsqu'il avait 4 mois seulement, il a crié un jour comme il n'avait jamais crié. Il a hurlé avec l'intention de savoir s'il était dans un monde sécurisé et s'il pouvait faire confiance à ceux qui étaient dans son proche entourage. Il avait besoin de savoir si on prenait soin de lui ou non. Le problème, c'est que sa mère a interprété ce hurlement comme une provocation, comme le signe d'une rébellion, comme la manifestation de sa nature pécheresse. Et donc, elle a voulu l'empêcher. Elle l'a crié à son tour, plus fort que le fils, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Et le fils se tut. La nuit, elle a cessé de le prendre dans les bras quand il criait. Et le fils s'est calmé. En fait, il s'est tellement bien calmé qu'il se tut à jamais. Il a appris qu'il ne pouvait pas rétorquer à sa mère. Il a appris que s'il disait quelque chose de travers, sa mère allait le punir, peu importe de quoi il s'agissait. Toujours, c'était une punition gravissime. Et il s'est replié sur lui-même. Il aurait eu besoin, jusqu'à l'âge d'un an, d'être entouré de la tendresse de cette mère, et de son père d'ailleurs. Il aurait eu besoin de tisser des liens qui soient solides, qui lui amènent la certitude qu'il est en sécurité dans ce monde. Il aurait eu besoin d'apprendre cela avant d'apprendre à se séparer de sa mère. Le problème, c'est qu'il ne l'a jamais appris. Et parvenu à l'âge adulte, eh bien, la mère a continué de contrôler son enfant comme elle le faisait quand il était petit. Elle cherche à l'influencer dans ses choix et cela n'a jamais arrêté. Je pense à cette histoire qu'évoque le thérapeute Henri Clou dans son livre « Oser s'affirmer ». C'est l'histoire de Liliane. Liliane, un jour, se réveille le matin et elle est déjà inquiète. Elle se demande « Mais pourquoi suis-je inquiète? Le Seigneur n'a-t-il pas promis le bonheur pour ceux qui le rêvèrent ?» Et quand ses yeux commencent enfin à s'écarquiller, elle se souvient que dans la journée, elle aura plusieurs rendez-vous compliqués, dont un avec la maîtresse de son enfant. Et puis, elle se souvient de la soirée précédente, cauchemardesque. Elle avait prévu de s'atteler à la couture, de faire une robe pour sa fillette. Elle voulait que cette robe soit particulièrement réussie. Le problème, c'est que son programme a été chamboulé. Sa mère est arrivée sans prévenir, de manière inopinée. Et comme Liliane a appris les bonnes manières, elle sait bien qu'elle doit délaisser son ouvrage pour accueillir celui qui arrive chez elle, ou celle qui arrive chez elle. Donc, elle se transforme alors en parfaite maîtresse de maison, mais intérieurement, elle se dit « mince, ma soirée est fichue ». Elle use de beaucoup de diplomatie, elle dit à sa mère « mais tu ne peux pas savoir, maman, combien ta visite me réjouit ». Mais est-ce que tu verrais un inconvénient si je continuais à travailler la robe de Marion pendant que nous bavardons parce que le temps est court et je dois la terminer avant son spectacle la semaine prochaine ? Mais déjà intérieurement, Liliane se recroqueville. Elle se dit que sa mère ne va pas accepter. La maman rétorque « Oh ma chérie, tu sais bien que je serai la dernière à prendre le temps que tu dois à ta famille ». Il faut dire que la mère de Liliane est veuve depuis 12 ans maintenant. Et puis, qu'elle a élevé son veuvage au rang du martyr. Depuis que ton père est mort, je trouve que le temps est long. Ma famille me manque. Comment pourrais-je te priver de ta famille ? Et Liliane devine facilement là où sa mère va aller, où l'entraîner. C'est pourquoi, dit la mère, je comprends fort bien que tu ne m'amènes plus les enfants, parce que comment j'arriverai à les distraire ? Moi, je suis une pauvre vieille femme solitaire. J'ai consacré toute ma vie à mes enfants, mais qui voudrait encore passer du temps avec moi maintenant ? Et puis, Liliane dit « Mais non, maman, tu te trompes !» Et d'emblée, elle fait comme elle a toujours fait, elle se range du côté de sa mère. Et puis, elle ne veut pas se désolidariser. Ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. C'est tellement formidable de t'avoir chez nous. Mais tu sais, avec notre emploi du temps, on aimerait bien te rendre visite plus souvent, mais on n'a pas encore réussi à le faire. Et aujourd'hui, je suis heureuse que tu prennes l'initiative. » Alors elle prie intérieurement, « Mais Seigneur, ne me condamne pas pour ce petit mensonge. » D'ailleurs, continue-t-elle, je pourrais terminer ce costume à un autre moment, quand je serai un peu plus libre. Et puis elle continue sa prière intérieure, « Mais Seigneur, pardonne-moi encore cet autre petit mensonge. » « Qu'est-ce que tu dirais d'une tasse de café ?» demande Liliane. « D'accord, puisque tu insistes. Mais tu sais, j'ai horreur de m'imposer. » Et puis, sa maman reste là jusque tard dans la nuit. Et lorsqu'enfin elle se décide à partir, Liliane est nerveuse intérieurement. Elle cherche à se calmer. Elle se dit « Mais au moins, j'ai réussi à combler la solitude et finalement le désespoir de ma mère. J'ai au moins fait ce bien-là. » Mais une petite voix intérieure vient lui susurrer à l'esprit, « Mais si tu lui as vraiment fait du bien, pourquoi ta mère se plaignait encore toujours de sa solitude quand elle est partie ?» Alors Liliane s'est mise au lit en essayant de faire taire cette voix. Où est le problème ? Liliane cherche à bien mener sa vie. Elle cherche à contenter tout le monde. Quand sa mère débarque à l'improviste, elle a crainte de la décevoir, elle se plie en quatre pour elle. Sans doute qu'elle craint aussi les réactions de sa mère. Alors, quitte à ne pas être tout à fait autant authentique, elle essaie de faire au moins du mieux qu'elle le peut. Le problème, c'est que Liliane a de la peine à fixer des limites. Elle veut bien faire, mais dans son désir de bien faire, elle s'oublie elle-même. Elle oublie qu'elle a ses propres besoins de repos, de sommeil, ses besoins physiques, ses besoins psychiques, ses besoins spirituels même. Elle fait taire toute la frustration qui est là pour continuer de servir. Elle n'aime pas les conflits. Et puis elle fait tout pour être bien avec sa mère. Le problème, c'est qu'elle finit par se charger de problèmes que Dieu ne lui a jamais demandé de porter elle-même. Liliane n'est pas responsable si sa mère se sent seule. Si elle se sent seule en permanence, parce qu'elle n'a pas fait un vrai deuil. Elle n'est pas responsable de tout ce qu'elle accepte de porter par ailleurs, quand son chef lui fait des demandes exagérées et qu'elle ramène du travail à la maison. Quand elle répond pour la troisième fois à des demandes de remplacement inopiné pour le groupe de dames. Quand son mari s'énerve contre elle, alors qu'elle essaye de faire tout ce qu'elle peut et de donner de l'amour pour deux. Autrefois, on appelait Liliane Super Liliane. Le problème, c'est que Super Liliane est fatiguée. Elle est fatiguée de vivre comme cela. Elle ne sait pas dire non. Et puis, cela engendre toute une série de problèmes dans sa vie, des frustrations qui vont vraiment grandissant. Est-ce que Liliane aurait pu s'y prendre différemment avec sa mère ? Moi, je pense que oui. Sa vie spirituelle est impactée par la relation qu'elle a avec sa mère comme avec les autres. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Elle ne vit pas dans la vérité. Elle doit camoufler ses vrais sentiments à l'égard de sa mère. Donc, il y a un vrai problème. Elle aurait pu chercher à rééquilibrer la relation. Et puis, je crois qu'elle aurait gagné à être authentique, même si vraisemblablement, cela aurait été difficile pour elle, parce que sa mère aurait sans doute mal réagi. Mais elle aurait pu essayer de dire « Écoute, maman, j'ai beaucoup de mal ce soir à t'accueillir parce que j'ai énormément de travail. Je ne vais pas y arriver, je suis déjà très fatiguée. Je suis contente que tu cherches à être là avec nous, mais je suis embarrassée parce que ce n'était pas prévu et j'ai un programme que je ne peux pas reporter. » Qu'est-ce que tu dirais si on se revoyait dans une semaine, après le spectacle de Marion, et là je serais heureux de passer du temps avec toi, j'aurais du temps beaucoup plus libre, je serais plus disponible pour toi. Mais juste avant que tu t'en ailles, dis-moi quand même quelques nouvelles, donne-moi quelques nouvelles de l'oncle Jean qui est à l'hôpital. Est-ce qu'elle aurait manqué d'honneur si elle avait refusé d'accueillir sa mère? Est-ce qu'elle aurait été égoïste en ne pensant qu'à elle? Je ne pense pas. Mais c'est compliqué, parce que c'est un rééquilibrage de la relation. Elle ne l'a jamais fait. Et le jour où elle va le faire, cela va amener des réactions. Face à un père ou face à une mère qui a ses propres difficultés, il peut être important de se préserver soi-même. On pourra aider son parent à dépasser une difficulté quand cette difficulté est tellement importante qu'il ne peut pas la supporter et l'assumer lui-même. Mais Liliane ne peut pas combler la solitude du veuvage de sa mère. C'est à sa mère de faire face à son deuil, à sa solitude. Vous savez, Dieu ne nous demande pas de nous charger du problème des autres. Aimer l'autre, ce n'est pas faire les choses à sa place, ce n'est pas porter les émotions des autres. Si sa mère se sent seule, il faut qu'elle prenne sa vie en main, qu'elle traite ce problème, mais Liliane ne peut pas résoudre à elle seule ce que sa mère n'a pas fait pour elle-même. Honorer son père ou sa mère, ce n'est pas dire oui à tout pour ne pas l'offenser. Parce qu'à ce moment-là, on reste dans cette relation infantilisante que je décrivais tout à l'heure avec cette mère de 90 ans et son fils de 70 ans. Mais dire non, cela a un coût. L'autre peut se fâcher, il peut se mettre en colère, il peut accuser, il peut menacer, voire il pourrait même partir. Donc avant de dire non, il faut quand même mesurer le coût. Il faut savoir à quoi on s'engage. Il faut être prêt à en prendre le risque. Mais c'est en le faisant, et malgré l'opposition qu'il peut y avoir, que la relation pourra se rééquilibrer. Globalement, si vous voulez, dans cette question des limites, on rencontre quatre types de réactions. Et je vais m'attarder sur chacune d'elles rapidement pour que l'on comprenne les enjeux de ce que j'essaye d'expliquer à propos des limites. Il y a tout d'abord les gens qui disent toujours oui et qui finissent un jour par se dire qu'ils se font avoir sur toute la ligne. Il y a ceux qui, par réaction, vont toujours dire non parce qu'ils ne veulent plus se faire avoir. Ils ont été meurtris. Ils ne veulent plus que ça se reproduise, ils se protègent, ils se cabrent, ils mettent des protections, c'est toujours non. Il y en a d'autres qui ne supportent pas le non des autres et qui débordent sur leur territoire et qui font comme s'ils avaient entendu oui malgré le non. Et puis il y a, quatrièmement, ceux qui n'entendent pas le oui des autres parce que s'ils l'entendaient, cela les obligerait à se dépenser pour eux. Cela les obligerait à se mettre en action pour les aider. L'idéal, ce serait de pouvoir être pleinement soi-même. Je suis pleinement moi-même quand je dis oui et que ce oui est réellement un oui et non pas un non intérieur. Je suis moi-même quand je suis capable de dire non et un vrai non, pas un non qui se transforme ensuite en oui. C'est une question d'intégrité avec moi-même et d'intégrité avec Dieu. Si mon oui n'est pas un véritable oui, je vis dans quelque chose qui n'est pas authentique et je vais en payer le prix à un moment donné ou à un autre dans ma vie. Quand Liliane réagit face à sa mère, si elle avait dit non à sa mère pour dire « je ne peux pas t'accueillir ce soir » et que ce non avait été un véritable non, aurait-elle manqué d'amour vis-à-vis de sa mère? Non, si elle garde le contact, si elle cherche à préserver le lien. Le problème serait survenu si elle avait coupé le lien et qu'elle s'était détachée de sa mère de manière définitive. Mais si elle cherche malgré tout à préserver le lien tout en cherchant à se préserver elle-même, si elle ne rompt pas le contact, mais qu'elle cherche juste à éviter l'invasion à l'intérieur de son domaine personnel, elle cherche quelque chose qui est juste. Le problème vient souvent de l'enfance. Quand les parents enseignent à leurs enfants de 2 ans, vous savez, cet âge où ils disent non pour tout, c'est non, non,
non, je ne veux pas, non, j'aime pas.
Si à ce moment-là, les parents disent à l'enfant qu'il n'a pas le droit de dire non, qu'il ne doit jamais dire non, à ce moment-là, il lui enseigne qu'il n'a pas le droit de poser des barrières et des limites. Si l'enfant intègre cela, plus tard, quand il entrera dans le monde adulte, eh bien, il va rencontrer dans un monde qui est fait de gens dominateurs, manipulateurs. Ce n'est pas un monde bienveillant, le monde dans lequel on est. Cet enfant qui n'aura jamais su dire non face à une personne qui cherche à le manipuler va continuer de dire oui. C'est tout ce que recherche le manipulateur. Donc il est important que l'enfant puisse apprendre qu'il a le droit de poser des limites, qu'il peut dire « je ne veux pas, ça me fait mal, arrête ». Celui qui n'a pas appris cela dans son enfance peut être entraîné dans des relations qui sont dangereuses. Mais pourquoi est-ce si difficile d'apprendre à dire non? Souvent, celui qui a peur de dire non a peur de blesser l'autre. Ou alors, il a peur d'être abandonné parce qu'il aura refusé d'accepter la demande de l'autre. Peut-être a-t-il peur de la colère aussi, de la réaction de l'autre. Il peut encore y avoir une autre peur, c'est celle de passer pour un être égoïste. Comment pourrais-je dire non si l'autre me demande quelque chose? Je serai peu spirituel. Si je veux aimer mon prochain, ne dois-je pas faire ce qu'il me demande? Mais on est entraîné là dans des fausses culpabilités. La personne va dire oui, mais son oui ne sera pas un vrai oui. Autre catégorie de personnes, ceux qui ne veulent pas entendre le non. Ces gens-là ont tendance à culpabiliser les autres, à faire pression, à leur forcer la main. Les parents peuvent dire à leur fils, par exemple, qui envisage une promotion à l'étranger avec sa famille, « Tu nous as dit que tu avais besoin de cette place à l'étranger. On le comprend, mais est-ce que vraiment tu as pensé à nous? Tu vas nous abandonner en partant? Nous ne pourrons plus voir nos petits-enfants. Pense à tes pauvres parents qui ont tellement fait pour toi, tellement fait pour que tu puisses réussir dans la vie. Tu ne peux pas nous faire cela quand même. » Ça, c'est de la manipulation. Ceux qui ne peuvent pas entendre le non sont des dominateurs. Ils ont tendance à placer sur les épaules de l'autre des fardeaux qu'ils ne veulent pas porter eux-mêmes. Il y a deux types de dominateurs. Il y a ceux qui sont impulsifs, qui sont dans la réaction, qui peuvent agresser l'autre. Ceux-là vivent dans un monde où le non n'existe pas. Ils ne connaissent que le oui. Si quelqu'un leur résiste, ils vont forcer le passage jusqu'à ce qu'ils réussissent. La deuxième catégorie de dominateurs, ce sont des gens qui sont moins paisibles que les premiers, en quelque sorte, moins honnêtes en tout cas. Ils manipulent les circonstances pour faire en sorte que l'autre fasse ce qu'ils auraient envie qu'il fasse. Souvenez-vous de l'histoire de Jacob dans la Bible. Avec la complicité de sa mère, il a réussi à tromper son père et à se faire passer pour son frère Ésaü afin de lui voler son droit d'aînesse. Il a été un manipulateur, un trompeur. Et d'ailleurs, Jacob veut dire « le trompeur ». Que se passe-t-il quand une personne qui dit toujours oui se trouve soudainement frustrée? Il y a bien des chances qu'à un moment donné, elle réagisse, qu'elle se mette dans une grande colère, qu'elle devienne elle-même dominatrice et qu'elle cherche à imposer ce qu'on lui a imposé. Elle va se retrouver dans le rôle inverse. Souvent, on observe que ces gens-là vont se retrouver dans une position où ils font du chantage. Prenons l'exemple de Simon. Simon est un garçon qui dit toujours oui quand il s'agit d'aider. Mais il est incapable de demander l'aide aux autres. Et quand une personne lui demande de passer du temps, l'autre jour par exemple, il a pris 4 heures pour aider un de ses amis. Mais il aurait besoin qu'on l'aide pendant 10 minutes à faire un petit truc, et ça, il est incapable de le demander. Simon, aujourd'hui, se sent un peu seul. Il aurait besoin d'un soutien affectif. Alors, il se dit qu'il va peut-être faire quelque chose pour son ami Jean. Il va l'aider même beaucoup, il va lui faire une faveur. Et grâce à cette faveur qu'il va lui accorder, il espère que Jean va lui donner un peu d'amour en retour, parce qu'il se sent seul. Le problème, c'est qu'il aide son ami Jean, mais que l'aide en retour ou que l'amour en retour ne vient pas. Et le problème, c'est que ce n'est pas la première fois que Simon cherche à rendre un service pour obtenir de l'amour en retour et que jamais ça ne fonctionne. Parce qu'il n'a jamais dit qu'il avait besoin d'amour. Il n'a jamais exprimé ses sentiments. Et les autres n'arrivent pas à lire dans ses pensées. Le problème, c'est qu'un jour, Simon est un peu fatigué. Il se fâche. Il s'emporte. Il s'emporte tellement contre son ami Jean que leur relation est brisée. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas ? Tout simplement que le geste de Simon, qui va aider Jean, n'est pas un geste gratuit. C'est un geste intéressé. Il aide en vue d'obtenir quelque chose en retour. Et cela, c'est de la manipulation. Il cherche en fait à contrôler son ami Jean. Il l'aide pour obtenir de Jean un geste en retour. Simon, quelqu'un qui est incapable de dire non aux autres et qui s'épuise progressivement, mais en même temps, il est incapable de recevoir. Quand quelqu'un commence à prendre conscience de sa situation et qu'il essaie de changer, il entre dans un chemin qui est long, difficile et parfois douloureux. Mais je crois que c'est un chemin qui en vaut la peine. C'est un chemin qui est possible. Cela va demander de l'aide, cela va demander de la patience, mais c'est un chemin qui en vaut la peine pour arriver à l'authenticité. Celui qui apprend à dire non risque de tomber dans des situations où il dit non à tout et pour tout, et il se met en colère. Il ne supporte pas la situation dans laquelle il est. Et il bascule comme dans l'autre extrême. Il ne veut plus qu'on abuse de sa bonté, il se referme sur lui-même, sur sa blessure passée. Et ce faisant, il perd de vue la qualité première du chrétien qui est d'aimer l'autre. D'aimer l'autre. Aimer l'autre implique de rester ouvert à l'autre, pas de dire toujours non. Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 27, nous lisons « Quand tu le peux, ne refuse pas de faire du bien à une personne qui en a besoin. » Ce verset est intéressant parce qu'il dit « quand tu le peux ». C'est-à-dire que ce n'est pas toujours possible de faire du bien à l'autre. Cela dépend de mes ressources émotionnelles, financières, spirituelles. Cela dépend de ma disponibilité. Mais quand je le peux, le Seigneur m'amène à faire du bien à l'autre. Si je reviens à la question des parents, nous devons leur manifester du respect. Nous devons prendre soin d'eux. Mais en même temps, un enfant qui est parvenu à l'âge adulte doit devenir aussi indépendant émotionnellement. Il ne doit pas ressentir de la culpabilité si son père ou sa mère pense différemment de lui. Si je reviens à l'histoire de Liliane, Liliane a senti la pression qu'exerçait sa mère. Et elle n'a pas réussi à résister à cette pression parce qu'elle ne voulait pas être en désaccord avec elle. Liliane était quelqu'un d'autonome, elle menait sa propre vie, elle décidait comme elle voulait décider de sa vie, mais sur le plan émotionnel, elle n'était pas détachée affectivement de sa mère. Pour le dire autrement, Liliane n'était pas propriétaire d'elle-même. Parce que si elle l'avait été, elle aurait pu continuer de tricoter ou de coudre pendant que sa mère était là, sans culpabiliser, ou elle aurait été en mesure en tout cas de s'affirmer face à sa mère. Il y a des signaux qui nous montrent qu'il y a un problème de limite. Je vous donne très rapidement quatre situations. La première, je prends l'exemple de Laetitia. Laetitia téléphone à sa mère très régulièrement, Mais chaque fois qu'elle raccroche le combiné, elle est abattue. Elle est sur la défensive. Et finalement, ça affecte tout le reste de sa famille. Son mari s'en inquiète et puis sa femme lui explique que sa mère l'a encore critiquée, a encore été désagréable au téléphone. Comment faut interpréter cette situation? Je dirais que quand la famille d'origine, donc en l'occurrence la mère, a le pouvoir de venir perturber la famille dans laquelle on est, la nouvelle famille que l'on a fondée, c'est le signe qu'il y a des frontières qui ne sont pas claires. Laetitia devrait peut-être dans ce cas-là prendre un peu de distance. Elle ne pourra pas changer sa mère parce qu'on ne peut jamais changer les autres. On ne peut changer que soi-même et les réactions que l'on se permet d'avoir. Laetitia est responsable de tout ce qu'elle entreprend. Elle est responsable de ses émotions, de sa manière de réagir. Comment peut-elle faire en sorte que ça l'affecte moins quand elle est au téléphone avec sa mère? Peut-être en prenant de la distance. Ce n'est pas manquer d'honneur vis-à-vis de sa mère que de chercher à entrer dans une relation plus mature, d'adulte à adulte, où elle a pris son indépendance émotionnelle. Deuxième cas de figure, où les limites ne sont pas forcément claires, je prends l'exemple de Bertrand. Bertrand téléphone chaque jour à son père pour lui raconter sa journée, et puis sa femme en prend un peu ombrage, parce qu'elle a l'impression que son père compte plus qu'elle. Et elle en arrive à un moment donné à dire à Bertrand « Mais je ne peux plus supporter cette situation ». Comment évaluer ce cas de figure? Si on prend l'Écriture, Genèse 2, verset 24, nous dit clairement que l'homme doit se séparer de son père et de sa mère avant de s'attacher à sa femme. Ce que nous indique l'histoire de Bertrand, c'est qu'il n'a pas réellement quitté son père avant de se marier et de s'attacher à sa femme. Le processus de séparation n'est pas achevé. Il est resté soumis à son père. S'il veut que son mariage puisse bien se passer, et s'il veut améliorer les relations avec son épouse, il a tout avantage à se détacher de son père. Non pas à manquer de respect à l'égard de son père, mais à être dans une relation différente d'adulte à adulte. Troisième cas de figure. Léon et Claire sont un couple sympathique qui vient de se marier il y a 2 ans. Ils ont un bel appartement, ils peuvent s'offrir des vacances de rêve. Le seul problème, c'est que tout ce qu'ils ont, et ils ont à profusion, tout ce qu'ils ont est financé par les parents de Léon. Et l'autre problème, c'est que les parents de Léon, parce qu'ils aident ce jeune couple, se permettent d'avoir un droit de regard sur les choix et la vie de ce jeune couple. Et c'est là que Claire commence à se sentir pas très bien. Elle se dit que leur couple dépend beaucoup trop de ses beaux-parents. Comment évaluer cette situation? Le risque, c'est qu'en acceptant un geste généreux de la part des parents, les parents franchissent une frontière, celle d'entrer dans l'intimité du couple, de ses choix, de sa capacité à vivre de manière autonome. Et si le couple n'a pas l'occasion de se construire de manière saine, indépendamment de la pression des parents, indépendamment de ce qu'ils peuvent penser, eh bien, il risque d'être en difficulté assez rapidement. Honorer ses parents, c'est apprendre à devenir autonome, aussi financièrement, par rapport à ses parents. Dernier cas de figure, Gaël. Gaël est un célibataire de 34 ans. Il continue toujours de passer ses vacances avec ses parents, à leur confier sa lessive, aller plusieurs fois par semaine prendre un repas avec sa mère pendant que le père est absent. Gaël est un homme qui a eu quelques aventures avec des filles, mais ça n'a jamais pu se concrétiser. Il n'a pas appris à mettre de l'argent de côté, puisqu'il avait tout ce qu'il lui fallait, ses parents pourvoyaient à ses besoins. Et aujourd'hui, il ne se sent pas en mesure d'être indépendant. Comment évaluer cette situation ? Gaël est dans une famille qui est chaleureuse, Ce n'est pas le manque de chaleur qui fait défaut. Mais les parents, en acceptant cette situation, empêchent en fait leur fils de prendre son indépendance. Il se peut qu'à cause de cela, leur fils ne se marie jamais, parce que le détachement n'est pas fait. Le cordon ombilical n'est pas coupé. Il se considère encore sous la protection de ses parents, et puis peut-être est-ce pour lui une manière de les honorer. Chacun tire bénéfice de la situation, autant les parents que l'enfant. Le problème, c'est que Gaël reste dans une relation qui n'est pas une relation d'adulte à adulte. Or, s'il veut honorer réellement ses parents, il faudrait qu'il soit dans une relation libre, avec une liberté qu'il a acquise en pouvant dire oui, en pouvant dire non, et surtout en étant devenu autonome. On pourrait évoquer d'autres situations, et notamment les situations de tous ceux qui ont été abusés dans leur enfance. Dans ces cas-là, on est dans des problématiques plus complexes et il s'agit souvent de se faire accompagner par des thérapeutes, des gens qui sont spécialisés dans ces problématiques. Je reviens à la question initiale, comment honorer mes parents? La Bible affirme que l'on doit prendre soin de ses parents âgés. On le trouve dans 1 Timothée 5, versets 3 et 4. Je crois qu'il est bon pour les enfants de pouvoir exprimer leur amour à l'égard des parents, de pouvoir manifester leur reconnaissance pour tout ce qu'ils ont reçu, malgré les limites de l'éducation, malgré ce qui n'a pas pu fonctionner. Mais si les enfants doivent prendre soin de leurs parents, c'est dans le cadre de certaines limites. Il faut peut-être se poser d'abord la question, si je dois prendre soin de mes parents, quels sont les besoins de mes parents ? Sont-ils vraiment dans le besoin, d'ailleurs ? Et s'ils ne le sont pas, je crois qu'on n'est pas dans une situation où l'enfant doit prendre soin matériellement, physiquement. Quand c'est le cas, les enfants sont en danger de vivre dans une mauvaise relation avec leurs parents. Nous sommes, si vous voulez, dans la vie des adultes qui devons nous assumer. Qui devons assumer notre propre vie. Nous sommes responsables de nous-mêmes. Nous devons connaître nos limites. Nous devons savoir nos besoins de sommeil. Nous devons être dans une relation équilibrée avec la nourriture. Nous avons besoin d'intimité avec Dieu. Nous avons besoin d'un équilibre émotionnel. Tout cela, ce sont des besoins qui sont légitimes. Si on les néglige parce qu'on a des limites qui sont floues avec les autres, on se met en péril soi-même. Dieu nous a donné un capital en nous donnant la vie. Et il aimerait qu'on gère ce capital de la vie comme de bons gérants. Il aimerait qu'on puisse tirer le meilleur parti de notre vie. Et cela implique parfois de dire non à certaines personnes, ou de dire non à certaines activités qui seraient mauvaises pour nous. Cela implique parfois que nous nous protégions d'influences qui seraient néfastes dans notre vie. Le but de mettre des limites, ce n'est pas d'être égoïste. Ce n'est pas de se refuser à aimer son prochain. Le but des limites, c'est de pouvoir apprendre à aimer de manière authentique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Aimer de manière authentique, c'est pouvoir être libre d'aimer, ne pas dire oui sous la contrainte de l'autre. C'est apprendre à dire non à toutes les personnes ou toutes les activités qui seraient mauvaises pour moi. Pour protéger ce que Dieu a mis dans ma vie. Le but des limites, c'est d'être libre et de pouvoir aimer d'une manière vraie. Celui qui n'a pas appris à poser ses limites entre l'âge de 0 et 3 ans pourra peut-être se rattraper à l'adolescence. S'il ne l'a pas appris à l'adolescence, s'il n'a pas fait son cours de rattrapage à ce moment-là, cela va être plus compliqué pour lui dans la vie. Peut-être qu'il n'arrivera jamais à quelque chose de totalement équilibré. Peut-être qu'il n'arrivera jamais à dire véritablement non à toutes les situations où l'autre vient de manière abusive dans sa vie, sur un espace qui est le sien. Mais il peut apprendre, il peut se mettre en route. Chacun de nous pouvons progresser là où nous en sommes. C'est un chemin que la plupart d'entre nous, nous avons besoin d'emprunter. Ce n'est pas que les autres. C'est un chemin qui est possible, qui est même nécessaire si on veut grandir vraiment en maturité émotionnelle et en maturité spirituelle. Parce que je pourrais aider les autres, être disponible pour les autres, dans la mesure où moi-même j'ai appris ces leçons-là. Donc si vous êtes en difficulté ce matin, je vous invite à ne pas rester seul avec votre difficulté. Vouloir s'en sortir seul, c'est souvent un combat difficile. Essayez d'en parler à des gens de confiance autour de vous. À leur demander ce qu'ils pensent de vos relations. Appuyez-vous peut-être dans un groupe de soutien. Si ce n'est pas suffisant, allez chez un thérapeute ou voyez le pasteur, mais cherchez à vous faire accompagner. Que le Seigneur nous aide à vaincre ce matin toutes les réticences, les résistances intérieures qui sont là et qui diraient non, c'est trop compliqué, je préfère vivre comme je vis. Qu'il nous aide à progresser dans ce chemin-là pour devenir spirituellement mature, adulte dans nos relations avec les autres. Amen. J'invite notre groupe de louanges à me rejoindre et pour faire suite à cet enseignement, eh bien nous allons chanter un chant qui évoque la grâce de Dieu. Parce que cette grâce est incomparable et nous avons besoin d'un Dieu de grâce. Nous pouvons nous sentir peut-être découragés. Nous pouvons avoir l'impression de faire face à une tâche qui est impossible. Mais le Seigneur connaît nos limites intérieures et il veut nous aider. Si nous faisons appel à lui, par son esprit, il va nous accompagner. Nous avons la possibilité maintenant d'avoir un temps de questions. J'ignore si vous avez eu l'occasion de poser des questions sur le chat, mais je vois que Judith s'avance avec les questions que vous avez posées. Et donc, je vais lui demander de poser une première question.
La première question était posée pendant la méditation. A priori, tu y as répondu. Mes parents passent-ils avant mon couple ? Si les parents passent après le couple, sont-ils déshonorés ?
Alors oui, peut-être que la question est effectivement intervenue avant que j'en parle de manière plus directe, mais il est sûr que le couple doit se préserver et que quand les parents viennent en premier dans le couple, nous sommes toujours dans une relation déséquilibrée. Cette relation va mettre à mal le couple. Si les beaux-parents prennent trop de place ou si les parents prennent trop de place, le couple sera mis à mal. Il ne pourra pas se former lui-même et vivre en pleine autonomie vis-à-vis de ses parents.
Donc, on a eu trois questions a priori. Donc, la deuxième question, selon les exemples cités, savoir dire non à ses parents conditionne-t-il notre maturité émotionnelle et spirituelle ?
La maturité émotionnelle et spirituelle, effectivement, se développe quand on apprend à être authentique, vrai par rapport à soi-même. Quand j'apprends à dire un non qui n'est pas un non de refus, un non méchant, un non égoïste, mais un non qui vise à être moi-même, à me préserver dans les limites qui sont les miennes. Parce que le problème, c'est que si je ne respecte pas ces limites, je ne respecte pas mes besoins physiologiques, mes besoins émotionnels, mes besoins spirituels, je vais forcément être en difficulté. Ces difficultés vont peut-être se traduire par toutes sortes de symptômes. On connaît des gens qui deviennent pour cela alcooliques, drogués, dépressifs, suicidaires. J'évoque là des cas qui peuvent vous sembler extrêmes, mais ce sont les conséquences finalement de personnes qui n'ont pas su poser les bonnes limites au bon moment. Donc dire non à ses parents, ce n'est pas refuser de les aider, j'espère en tout cas, ce n'est pas un refus où on se prive de toute relation, même si parfois il faut se protéger en prenant un peu de distance pendant un temps afin de devenir indépendant émotionnellement. Dès qu'on le peut, il va falloir rétablir une forme d'équilibre, mais un équilibre nouveau où l'on est entre adultes, où l'on a le droit de penser différemment. Et quand je suis en droit de penser différemment, par rapport à ce que mes parents voudraient, aimeraient que je fasse, par rapport à leurs attentes, quand je peux leur dire non, je n'ai pas envie de t'amener les enfants aujourd'hui parce que j'ai un autre programme et que je ne peux pas les amener, ou si au contraire, on a envie de leur dire oui, aujourd'hui je peux te les amener et je suis content que tu les prennes, on arrive là dans quelque chose qui est mature. C'est comme cela que je grandirai aussi spirituellement. Parce que quand je vis en frustration constante, en tension entre ce que je fais et ce que j'aimerais faire et que je ne fais pas, cette tension produit de la frustration qui a des conséquences sur ma vie spirituelle aussi.
Donc, une troisième question. Dans le cadre de la maltraitance, quel rapport l'enfant devrait-il avoir avec ses parents ?
Alors, dans le cas de la maltraitance, il faut voir quel est l'âge de l'enfant. Si c'est un jeune enfant, il va falloir qu'il soit protégé, ce jeune enfant. S'il y a de la maltraitance, il serait bien que ceux qui sont conscients de cette maltraitance autour de la famille puissent aider, intervenir, parfois faire appel aux services sociaux pour prendre soin de l'enfant. Le soin de l'enfant est prédominant généralement par rapport à la relation avec les parents. Alors, chaque cas est différent, il faudrait pouvoir analyser la situation donnée, mais il y a un soin à accorder à l'enfant. On doit préserver son intégrité physique, son intégrité psychique. Si l'enfant est adulte, qu'il a été victime d'abus autrefois, il est bon qu'il ne reste pas avec cette souffrance tout seul, mais qu'il puisse s'en ouvrir à un spécialiste, ou à un pasteur, à un confident en qui il pourra avoir confiance et avec qui il pourra cheminer pour faire face à cette souffrance. Parce que cette souffrance laisse des traces dans la vie. Elle n'est pas innocente. Il faut pouvoir la dépasser. Pour pouvoir la dépasser, il y a lieu d'avoir un accompagnement spécialisé.
Et quatrièmement, on a un commentaire donc, d'une des personnes connectées. Alors, je vais la lire dans un instant. C'est plus d'explications sur le mot « honorer » pour nous aider à faire la différence entre « honorer » et « réfuter une situation difficile ».
Quelle est la différence entre « honorer » ou « refuser » une situation ou « réfuter » une situation difficile ? Honorer, c'est avoir du respect. Mais ce respect n'exclut pas que l'on puisse mettre en question l'éducation que l'on a reçue. C'est un sujet qui a souvent été tabou. Les enfants n'avaient pas le droit de discuter de l'éducation qu'ils avaient reçue. C'est comme ça, il n'y avait qu'à prendre et à accepter. Je crois néanmoins qu'il peut y avoir une légitimité à s'interroger, à prendre du recul par rapport à l'éducation que nous avons reçue, afin de pouvoir vraiment recevoir avec reconnaissance les aspects positifs, il y a toujours des aspects positifs, et puis se défaire des aspects négatifs. Donc, honorer veut parfois dire aussi prendre une certaine distance sur les mauvaises choses que nous avons reçues. Même les parents les plus prodigieux ne sont pas parfaits. Donc, il y aura toujours, dans n'importe quelle éducation, des éléments positifs que nous avons reçus et d'autres desquels il convient d'avoir une distance critique et de se dire, là, ce n'était pas optimal. Si j'étais blessé, j'aimerais pouvoir en guérir. Si je suis guéri, j'aimerais pouvoir ne pas reproduire ces schémas-là avec mes propres enfants pour que l'histoire ne se répète pas de génération en génération. Ainsi, j'honorerai mes parents pour ce qu'ils m'ont donné de bon. J'aurai du respect avec eux, je continuerai de leur manifester ma reconnaissance pour qui ils ont été, ce sont eux qui m'ont mis au monde, et je continuerai aussi à pourvoir à leurs besoins si un jour ils sont dans une situation compliquée dont ils n'arrivent pas à se sortir eux-mêmes, mais je ne me chargerai pas d'un poids dont je n'ai pas à me charger. Voilà comment avancer dans cette question des limites, je crois.